Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréa l'explorateur, l'étude de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, en soutirant les choses essentielles pour notre marche de tous les jours et pour la compréhension de notre Dieu et de sa volonté. Voilà, sans forcément entrer très en profondeur, parce que le but c'est de pratiquer la parole de Dieu et de se rapprocher du Seigneur. Nous passons au psaume 42. Psaume 42.
Psaume 42. 42, pardon. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
Amen, amen, amen. Là, nous accédons maintenant au livre deuxième des psaumes. Voilà, donc c'est la deuxième partie des psaumes comprenant en majorité ou même en totalité les psaumes rédigés par les composés par les fils de Corée. Les Corée, ça fait partie des descendants de Lévi, donc la tribu que Dieu a mise à part pour être pour être à son service dans le tabernacle et puis dans le temple, dans tout ce qui concernait le spirituel, c'est la tribu de Lévi. Et il y avait des gens qui avaient des responsabilités, des clans qui avaient des responsabilités. Il y en a qui avaient des responsabilités créatives pour porter l'arche, pour plier les rideaux. Il y avait des portiers et il y avait aussi justement des chantres. Et les fils de Corée faisaient partie de ces chanteurs-là consacrés à louer Dieu dans sa maison. Donc eux aussi, ils ont fait des psaumes. C'est pourquoi vous voyez le titre « Au chef des chantres, masquille des fils de Corée ». Voilà, donc il y avait des styles. Donc quand on dit masquille, donc il y avait des styles donc des fils de Corée. Et là, le thème de ce psaume, c'est la soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. Là, il n'est pas question de nourriture, de maison, C'est un psaume qui nous pousse à manger de Dieu, quoi. C'est à vivre de Dieu comme une nourriture, comme une eau. Et c'est ce à quoi est appelé le chrétien également, à vivre de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le chrétien est un être qui a une double vie, une vie physique, comme tous les humains, et une vie spirituelle. Et il est appelé à vivre le côté spirituel plus que le côté physique. Malheureusement, le siècle précédent a entraîné le chrétien à rechercher à vivre plus le côté physique, bien sûr en prétextant qu'il y a des promesses qui sont dans la Bible qui sont pour nous, et donc en justifiant une telle inclination par ces promesses-là, ils ont créé un mode de vie chrétien qui fait que on cherche plus à dire à Dieu, mais donne-moi la maison, donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Et il y a moins la soif de vivre avec Dieu lui-même tout seul. Ce qui caractérisait les vieux chrétiens d'autrefois. Vous savez pourquoi? Parce que à l'époque, le confort matériel n'avait pas atteint le niveau du XXe siècle. Le XXe siècle a bouleversé la vie matérielle des humains. Le confort peut être atteint très vite à partir du XXe siècle. Alors qu'à l'époque d'avant, le confort matériel, il était atteint lorsqu'on était vraiment riche. Mais au XXe siècle, ça ne demandait pas à être très très riche. Et jusqu'aujourd'hui, le confort matériel est atteint très vite. Du coup, les humains sont axés beaucoup plus sur le confort matériel. Et ils ont transposé ça dans les choses de Dieu. Et les gens ont moins soif d'être avec Dieu, tout simplement, sans intérêt, sans volonté de lui demander ceci ou cela de matériel, mais de se promener avec lui. Hein? Donc, il y a un chant anglais qui dit « Just a little walk with Jesus ». Donc, une petite promenade avec Jésus. Voilà, il y a plus trop ça, c'est beaucoup plus « Seigneur, nous voulons une grande salle, Seigneur, nous voulons !» Donc, c'est toujours « nous voulons ». Et à la fin, c'est quoi? C'est du matériel. Alors que Dieu nous appelle à vivre en esprit. Mes paroles sont esprit et vie. C'est ça la différence entre nous et les païens. Il faut qu'il y ait cette différence, que le païen sente que toi, tu as une autre source de vie. C'est la parole de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est ça qui doit marquer la différence entre nous et les autres. Et donc ce psaume nous ramène à ça. Verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et là maintenant, il se rappelle « Quand irai-je paraître devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. » Donc vous savez, il y avait des cérémonies où la foule montait. Vous savez, à un moment, on va arriver vers les psaumes 120, On va appeler ça les psaumes, hein, les cantiques de degrés. Au fait, c'est des chants qui étaient exécutés pendant qu'ils montaient les degrés. Les degrés, c'est les marches, les escaliers du temple. Donc, on appelle ça aussi des degrés. Donc, maintenant, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur tous ces temps-là où on louait Dieu, on montait et c'était extraordinaire. Et je crois que ce psaume peut-être a été composé en un temps où ils avaient plus trop accès au temple. Alors ils se rappelaient tous ces temps-là. Le Dieu vivant, comment c'était beau. Et ça me rappelle aussi le psaume 137, bon, qu'on lira plus tard, où ils sont arrivés à Babylone en captivité et ils ont suspendu leur harpe sur les arbres, sur les saules. Et les gens du pays leur disent, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous chanter les musiques de chez vous? Eux, ils disent, non, on ne peut pas chanter ça ici. On peut chanter ça qu'à Jérusalem. Vous voyez? Donc là, le souvenir de Dieu devient fort. Il se rappelle tous ces moments de communion avec Dieu. Et c'est beau. Mais je voulais poser une question à travers ce psaume. On a l'impression souvent que les moments de communion avec Dieu, on s'en rappelle que on les voit beaux, excellents, qu'après. Quand on les vit, c'est bien, mais ce n'est qu'après qu'on sent, dans le souvenir, On se dit, mais c'était extraordinaire. Et c'est ce que Jésus a dit un jour par rapport au vin. On dit, mais les gens disent, le vieux vin est beau, quoi. Voilà. Donc, on a l'impression que c'est notre passé toujours chrétien qui est plus excellent que notre présent. Et souvent, ça nous arrive comme ça. Ben pourquoi? Parce que dans le présent, on n'a pas l'habitude de voir les choses selon la grandeur de Dieu. Dans le présent, il y a une part de chair en nous qui sous-estime la gloire et la grandeur de Dieu. Et c'est a posteriori qu'on se rend compte qu'on était plongé dans ça. Souvent, quand on était au Maroc, on faisait des camps bibliques. Quand on était dans ces camps bibliques, c'est-à-dire qu'on prenait, on louait un chalet en dehors de la ville, en isolement, et on priait, on louait Dieu, on suivait des études bibliques par un encadreur. Mais quand tu es dedans, tu sens la vie normale. Mais quand le camp biblique finit et que tu reviens chez toi à la maison, c'est là que tu te sens privé de quelque chose. C'est là que tu te sens en manque. Voilà. Souvent, ça nous arrive. Pendant les événements eux-mêmes avec Dieu, voilà, on ne sent pas la gloire, on ne sent pas la joie, on ne sent pas... On peut être en joie, dans la paix, mais on va ressentir ça davantage quand ça ne sera plus là. Voilà, ça fait que les gens passent leur temps à parler de leur passé spirituel. Ça aussi, c'est un piège. Donc, il faudrait considérer que le meilleur est à venir. Malgré le fait que ce passé-là nous fortifie, ben, que ça nous donne du plaisir à rechercher davantage et non pas à nous bloquer dans le passé. Souvent, ça nous arrive de dire, ah, il y a 5 ans, c'était bien. Quand je m'étais converti, c'était bien. Oui, mais tu peux retrouver ça. Voilà. Donc, cherchons davantage le Seigneur pour retrouver ça. On ne va pas fixer le passé comme étant le meilleur moment. La gloire de Dieu est sans cesse, peut augmenter encore. Donc, il faut aller plus vers l'augmentation plutôt que consacrer le passé comme le meilleur moment qu'on ne pourra plus jamais vivre. C'est faux. On peut toujours vivre d'autres moments. Mais c'est aussi une leçon à savoir apprécier. Apprécier le présent avec Dieu. Parce que souvent, on n'apprécie pas le présent avec Dieu selon sa valeur. C'est ce qui fait que quand on en est privé, c'est là qu'on réalise, ah, mais j'avais quelque chose d'extraordinaire. J'avais quelque chose. Oui, mais maintenant, tu commences à rechercher ça. J'ai entendu Bernard Tapie, avant sa mort, dire aux journalistes, mais vous voyez, là, aujourd'hui, je vous parle comme un, voilà, avec une voix cassée. Mais quand vous pouvez parler normalement, rendez-vous compte, c'est un don extraordinaire. C'est ça. On ne se rend compte des dons de Dieu que quand on en est privé, c'est pas bon. Il faut qu'on apprenne maintenant à les apprécier au présent. C'est la leçon qu'on peut tirer de ça. Apprécier au présent ce qu'on vit pour ne pas avoir à être toujours dans la nostalgie. L'homme est souvent dans la nostalgie parce qu'au moment où il vivait les choses, il n'appréciait pas à 100% ce qu'étaient les choses. Évitons cela. Rendons gloire à Dieu dans le présent pour tout ce qu'il fait et ça nous évitera des nostalgies qui nous retardent. Voilà, oui.
Question Internet. Si je comprends bien, c'est l'orgueil qui fait qu'on se fâche quand les gens parlent mal de nous.
Oui, c'est l'orgueil. Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'on veut être bien vu. Voilà. Et un orgueil aussi couplé d'une logique de justice. C'est que souvent, ce qu'ils ont dit est faux. On se dit, mais c'est pas juste. Voilà. Et c'est pas juste l'orgueil, mais il y a aussi une logique de justice qui veut qu'on se défende. Mais c'est là que la parole nous enseigne à faire le sourd et le muet et à se dire, bon, je prends ces critiques-là pour le compte des péchés que je commets réellement. Voilà, c'est tout, je ne suis pas parfait, et un point, c'est tout. Voilà. Ok. Voilà, donc, et finalement, verset 11, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Parce qu'avec ça, les gens nous disent, « Où est ton Dieu ?» Voilà. Quand on est privé, là, ils étaient privés certainement du temple. Voilà. Et là où ils étaient, on dit, « Mais où est votre Dieu ? » Vous parlez beaucoup, « Où est votre Dieu ?» Et c'est là qu'ils clôturent en disant, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Donc il y a de bons moments qui viendront. Ne restons pas dans le passé. Donc continuons à espérer, malgré tout, et dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Donc pendant que nous sommes dans ces temps-là, nostalgiques, on se dit, ah, quand on était il y a 2 ans dans telle salle, comment la gloire était là. Au lieu de rester dans la nostalgie charnelle, transformons ça en soif. Mon âme a soif de Dieu. Dire, Seigneur, tu peux nous abreuver plus que cela. Transformons ça en soif. Ne restons pas dans une nostalgie qui va plutôt créer la tristesse. Transformons ce bon souvenir en soif de Dieu. Dis non, moi, je veux à nouveau retrouver le premier amour. J'ai soif de Dieu. J'ai envie de manger avec lui, de faire une marche avec lui. Ô Seigneur, reviens à nous. Voilà, on crie à lui. On dit, nous avons soif de toi. Jésus a dit, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie. C'est à celui qui a soif. Et dans un autre passage, il dit, que celui qui a soif vienne. Sans la soif, on ne peut pas servir Dieu. Il faut la soif. Et c'est cette soif qui attire Dieu. Dieu veut qu'on le désire. Il ne veut pas qu'on l'utilise juste comme banque et hôpital. Il veut que lui-même, tel qu'il est, qu'on le veuille de lui. Et c'est cette soif-là qu'on doit exprimer, dire Seigneur, nous voulons de toi. C'est vrai que tu m'as donné des enfants, tu m'as donné une maison, tu m'as donné, mais tout ça n'est rien par rapport à toi. C'est toi que je veux. C'est ça qu'on doit dire au Seigneur, et c'est là qu'il vient. Donc c'est très important, bien-aimé, le psaume 42 nous apprend, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Prions le Seigneur par rapport à ça. Seigneur, nous venons te dire que notre âme n'a pas soif d'argent, puisque l'argent, l'âme ne mange pas l'argent. Notre âme ne mange pas le chocolat. Notre âme ne boit pas le coca, Seigneur. Notre âme a soif de toi, réellement. C'est ce dont elle a besoin. C'est de toi, de ta parole, de ton esprit, de ta volonté. Jésus lui-même a dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Il nous a montré que réellement la vraie nourriture, c'est de marcher avec toi, de faire ta volonté, de prier. La vraie nourriture, c'est de fonctionner avec toi. Seigneur, nous venons te crier encore, « Oh Dieu, Seigneur, notre âme a soif de toi, Seigneur. Ça fait des années que nous mangeons. » Ça fait des années que nous buvons, ça fait des années que nous nous vêtissons, Seigneur, mais tout ça ne nous comble pas, Seigneur, car notre âme a soif de marcher et de fonctionner avec toi. Exauce-nous, Seigneur, réponds-nous au nom de Jésus. Amen. Nous passons au psaume 43.
Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elles me guident, qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
Amen, amen, amen. Donc, tout ça respecte le même schéma que les psaumes de David. Voilà, on commence par dire Dieu est élevé, Dieu est grand, mais après on parle de son état, un état d'abattement, de tristesse, et on fait le lien entre nous et Dieu, et puis on réclame son aide, son soutien. C'est le même schéma que les psaumes de David, et dans le psaume 43, la conclusion, c'est de continuer à espérer en Dieu. Donc il faut continuer à espérer en Dieu, malgré le fait que tout semble à l'avantage de nos ennemis. Voilà, faut continuer à espérer en Dieu. Bien aimé, le chemin peut être long. Je pense que une des difficultés de notre Église d'aujourd'hui, l'Église de notre époque, en grande partie, parce qu'il y a quand même des zones où l'Église est différente, mais en grande partie, c'est le fait de ne pas connaître des persécutions. Voilà, ça nous empêche d'entrer dans certaines réalités spirituelles. Et ces gens-là sont en quête vraiment de Dieu, parce que je crois que ils devaient connaître un temps où ils étaient privés de la normalité d'autrefois. Et c'est ça le temps de persécution. Vous êtes privés de la normalité. Avant, vous alliez au culte tranquillement, vous rentriez chez vous, vous alliez au travail. Après vient un temps où vous êtes mis en prison, séparés, dépouillés. Et c'est là qu'on dit, Seigneur, nous ne voulons pas être abattus. Voilà. Pourquoi, verset 5, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Donc il faut continuer à louer Dieu pendant que tout semble négatif, puisque Dieu, lui, ne change pas. Adapter notre louange à Dieu, à nos problèmes, ou bien à notre situation, est une offense faite à Dieu. Parce que louer Dieu, c'est parler de ses exploits, parler de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il peut faire. Or, ses exploits sont toujours là, la terre est toujours là, les cieux sont là, les humains sont là, donc la végétation est là. C'est des exploits. Bien-aimé, quand nous faisions le Tour de France, mais quel beau paysage on n'a pas vu. Il y a des paysages, c'était comme dessiné par un peintre. Des paysages montagneux. Lorsqu'on a fait la route Digne, Nice, on a vu des paysages, on se dit, mais c'est... Je demandais même aux gens de la voiture, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui a coupé avec une sorte de grand couteau? Non, 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 c'est la puissance de Dieu. Alors tout ça est toujours là. Maintenant, si parce que toi tu as faim, tu n'as pas mangé à midi, bon, tu attends de manger pour louer Dieu, mais ça veut dire que... Ben, donc tout ça, c'est qui a fait? Donc nous ne pouvons pas conditionner la louange à Dieu à notre état. Ça serait le diminuer, ça serait contredire ce qu'il est vraiment. Et c'est pourquoi il dit, mais il faut pas que mon âme, tu t'abattes. Ressaisis-toi. Donc parfois, nous devons parler à nous-mêmes. Ressaisis-toi. Arrête. Dieu existe. Regarde encore, le soleil est là. Regarde. Les radiations du soleil. Est-ce que vous vous rendez compte, il y a des miracles comme la lumière. La lumière est un miracle. Parce que si vous faites passer la lumière à travers un prisme, ça se décompose en plusieurs couleurs. Elle est blanche à l'origine. Vous mettez un prisme, ça passe à travers le prisme. Quand ça sort en plusieurs couleurs. Rouge, jaune, mais c'est extraordinaire. Donc ce qui est blanc, en réalité, c'est blanc par miracle. C'est des couleurs différentes qui, mélangées, créent le blanc. Quand on a appris ça au collège, mais je me disais, mais c'est pas possible. Comment toutes les couleurs, quand tu mélanges le rouge, le jaune, le bleu, ça devient blanc. Comment expliquer ça? Alors, quand on pense à des choses comme ça, c'est pas parce que j'ai faim, c'est pas parce que j'ai mal quelque part que je ne veux pas louer mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère, les jours vont changer. Le soleil va revenir. Ça, on verra ça quand on va lire le psaume 130. Voilà. Espère en Dieu comme les gardes attendent le matin. Le matin finit toujours par arriver. Même si la nuit est longue. Nous tous, on a connu un jour de nuit froide. Et on attendait vite que le matin arrive. Et même si la nuit a été très longue, le matin finit par arriver. Et donc, c'est ce que nous dit le psaume 130. Et là, on nous dit, espère en Dieu. Loue-le. Il est notre salut et notre Dieu. Donc, il est Dieu. Ça ne bouge pas, ça. Donc, que notre louange aussi, également, ne bouge pas. Qu'elle soit constante. Nous sommes des humains, on peut être déstabilisés. Mais alors, ressaisissons-nous. Ressaisis-toi, mon âme, et loue le Seigneur. Amen. Psaume 44.
Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié. Sans que nous ayons violé ton alliance, notre cœur ne s'est point détourné. Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face?
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté.
Amen. Délivre-nous à cause de ta bonté. Mais pendant un moment, la personne a beaucoup plus fait valoir sa droiture. Mais à la fin, ça finit par « délivre-nous à cause de ta bonté ». Ça, c'est une prière difficile. Pourquoi? C'est une prière de quelqu'un qui se croit, qui se sent juste et qui ne voit pas le fruit de sa justice, qui a l'impression que Dieu le repousse, Dieu se comporte en quelque sorte pas en conformité avec la justice de cette personne-là. Donc c'est ça, ça a créé des rébellions chez beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui se sont rebellés contre Dieu parce que l'enfant est mort. Le parent est mort, la maman est morte, le papa est mort. Il y en a qui ont arrêté avec Dieu à cause de ça. Je me dis, mais pourquoi? Il y en a qui ont arrêté avec Dieu parce que ça fait longtemps qu'ils ont prié, il n'y a pas eu de guérison. Ils disent, mais pourtant, moi je fais bien les choses. Il y en a qui ont arrêté aussi avec Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant le culte, des miliciens sont venus, ils ont tiré sur les gens. Des enfants et des femmes sont morts, des innocents. Il y en a qui se sont dit, mais pourquoi Dieu ne nous a pas protégés, même pendant qu'on le prie lui-même. Voilà, ce sont des... Maintenant, si malgré ça, malgré tout ce que je viens de citer là, on fait une telle prière, on est quand même mendiant, quoi, finalement. C'est-à-dire que tu es en haillon, tu es pauvre, malheureux, erre, tout ça. Et tout ce que tu trouves, c'est de supplier Dieu encore. Ça, ce n'est pas facile. La prière des désespérés. Donc tu es désespéré, mais tu comptes quand même sur Dieu encore. Au fait, il y a tout pour te dire, laisse tomber. Il n'est pas fidèle. Il ne vous a pas protégé. Laisse tomber. Il ne vous a pas fait voir le danger à l'avance. Tout est là pour dire, mais vous, vous faites bien les choses, mais il est où? Il ne fait rien. Mais, dans leur désespoir, ces gens-là n'entrent pas dans la rébellion. Ils prient quand même Dieu. Comme des mendiants. Vous savez, les mendiants, ils demandent que tu le regardes mal ou bien ils demandent quand même. C'est ça quoi. Et là, tu as l'impression que Dieu te regarde mal, mais tu demandes quand même. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. La mendicité, c'est pas facile. Ça voudrait dire grande humilité. Grand oubli de soi-même, mais une fixation sur le fait que la personne a quelque chose. Si tu regardes à ton honneur d'humain, tu ne peux pas faire la mendicité. Mais quand tu te dis, la personne a de l'argent, a quelque chose, je peux lui demander. En fait, tu te focalises sur la personne et non sur ta personne. Là, tu peux faire ce genre de prière. Tu dis, non, Dieu existe. Il a les choses que qui me manquent. Dieu existe. Et nous sommes son peuple. Voilà. C'est tout le discours qu'on voit du premier verset au verset 9. C'est un discours qui réitère, qui affirme le fait que notre Dieu est notre Dieu est grand. Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies. Voilà. Et le verset 9 finit par « Nous nous glorifions en Dieu chaque jour ». C'est-à-dire que ça n'a pas changé. Nous te considérons toujours comme le meilleur. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Ça, c'est pas facile, puisque quand on lit la suite, maintenant à partir du verset 10, « Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte ». Maintenant, ces gens-là, au lieu de dire que Dieu est incapable, ils disent « Non, il nous repousse ». Alors que nous, on a tendance à vouloir le faire passer comme un incapable. Alors que eux, ils disent « Mais non, ils refusent de faire ». C'est une sorte d'expression de foi que de dire « il refuse de faire » plutôt que de dire « ah ben non, il est incapable ». Non, il n'est pas incapable. Parce que du verset 1 au verset 9, on parle de ses exploits. Verset 4, « car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face ». Donc ils reconnaissent que Dieu est grand et tout puissant, il a fait des exploits dans le passé. Verset 7, ils le redisent encore, « car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera ». Donc ces gens-là sont conscients que Dieu reste grand, malgré la situation qu'ils vont étaler à partir du verset 10. Il conclut que c'est Dieu qui refuse et tout. Et du coup, puisqu'il refuse, il mendie. Ah, ça, c'est compliqué pour l'homme. On aurait plutôt tendance à critiquer Dieu. Mais eux, ils mendient. Ils font le constat. Ils refusent de nous aider. Ils refusent. Ils restent tout puissants. Ils restent glorieux. Ils restent même notre Dieu. Ils restent même notre Dieu. Mais ils refusent. Mais nous, ça nous fait mal. Alors nous lui demandons de changer, d'accepter à nouveau de nous visiter. Nous, ça nous fait mal. On est triste. Voilà, donc ils lui disent, nous, ça nous fait mal. Verset 26, car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Voilà, on est abattu. On ne comprend pas, tu nous as oubliés, tu refuses de nous aider. Verset 27, lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Là, il s'oublie complètement. Maintenant, c'est toi, Seigneur. Fais quelque chose à cause de ta bonté. Est-ce que, même si on aurait péché, est-ce que ta bonté ne peut pas dépasser ça? Bien-aimé, le psaume 44, c'est l'état de notre église aujourd'hui, de notre époque. Nous sommes honteux. C'est honteux ce que nous vivons aujourd'hui. Surtout dans les églises américaines et africaines. C'est honteux. On a vu une vidéo où un monsieur, je ne sais pas si c'est un homme d'affaires, qui débitait les liasses d'argent sur l'estrade, quoi, pour donner au pasteur. On voit des pasteurs qui annoncent à l'avance leur anniversaire, comment ça va être et ils font ça dans la salle de culte. Les gens se moquent de nous. Même les païens voient que c'est pas normal. Et les chrétiens applaudissent. Il y a des dénominations qui reconnaissent le mariage homosexuel. Vous savez, bien-aimés, si à l'époque du mariage pour tous, on avait fait un référendum en France concernant le mariage homosexuel, ça n'allait pas passer. Parce que si ça allait passer, ils allaient vite faire ça. Pourquoi ils ont zappé le référendum? Ils savent que les gens allaient dire non. Même s'ils vont dire non à 1% de différence, ils allaient dire non. Ils le savent. Moi, je me souviens quand on était étudiant au Maroc, nous avions un pasteur suisse qui voulait nous convaincre que L'homosexualité, c'est naturel, il faut comprendre les gens, tout ça. Mais nous, on a dit non, c'est interdit dans la Bible. Et on avait un frère qui a brandi au pasteur un journal français à l'époque qui avait fait un sondage concernant ça. Et la majorité des Français étaient contre. On a dit, mais pasteur, comment même des païens trouvent que c'est pas naturel? Et toi, c'est toi le pasteur qui vient nous dire que les gens sont nés comme ça. Mais bien aimé, dans ce cas-là, on va dire aussi les gens sont nés voleurs, il faut les laisser voler. Les gens sont nés fumeurs, il faut les laisser fumer. Mais c'est... Non, la Bible est claire, Dieu est contre ça, parce que la terre c'est à Dieu. Il a créé les hommes pas pour ça, il est contre ça. Bon, réalisons bien aimé que si on avait fait un sondage, un référendum en France, ça n'aurait pas passé. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des dénominations chrétiennes qui reconnaissent l'homosexualité comme quelque chose de normal. Dernièrement, il y a eu deux pasteurs déjà deux pasteurs femmes, de trucs protestants, et qui se sont mariés. C'est ça le psaume 44. Seigneur, nous l'en a dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas nous visiter à nouveau pour faire taire tout cela, qu'il y ait une différence entre ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Ça semble être pareil. Nous, on est dans l'abattement. Moi, je suis dans l'abattement, bien-aimé. Je dis, mais non. Tu passes à gauche, le chrétien ne parle que de médecins et d'hôpital. Non, je dis, mais Seigneur, le don de guérison. On est dans l'abattement. Mais on refuse de se rebeller. On sait qu'il nous refuse beaucoup de choses. On va continuer à mendier. S'il faut faire... Voilà, on a fait le tour de France pour mendier, dire Seigneur, sauve notre pays. Voilà. Puisque tu as la puissance pour ça. S'il ne fait pas, c'est qu'il refuse, puisqu'il a la puissance pour ça. Alors, on continue à mendier. Ne jouons pas rebelles. Que notre cerveau ne nous joue pas de mauvais tours en disant que Dieu se contredit, comme ça a joué de mauvais tours à un missionnaire. Hein. Je vous ai déjà raconté cette histoire, qui est parti avec sa famille en Amazonie pour sauver une tribu non atteinte. Vous savez, il y a des tribus dans le monde entier, il y en a encore qui ne sont pas atteintes par l'évangile. Donc, qui ne connaissent pas un chrétien dans la tribu. Ou du moins, la bonne nouvelle n'est pas arrivée clairement dans cette tribu-là. Peut-être qu'ils peuvent connaître un chrétien, mais qui est un expatrié, qui n'est pas avec eux. Voilà. Et cet homme-là a fait 7 ans, je crois, environ. Zéro conversion. Il s'est rebellé contre Dieu. Il est devenu athée. Et il a décidé que ces gens-là étaient bien tels qu'ils sont. Mais ces gens-là sont des créatures de Dieu. Dieu veut les sauver. Dieu veut qu'ils connaissent son Fils. Le Fils doit être connu par tout le monde. Lui, il a décidé qu'ils étaient bien comme ça. Parce qu'il n'a pas pu créer un langage avec eux qui puisse faire qu'ils croient en l'évangile. C'est une tribu qui compte jusqu'à 2 seulement. 1, 2. Donc, vous voyez, donc, pour faire comprendre certaines notions, pour lui, ça s'est avéré impossible. Et il est devenu athée. Il a divorcé de sa femme, puisque sa femme et les enfants continuent à être chrétiens et à faire la mission là-bas. C'est lui, dans la rébellion, parce qu'il se dit, mais il n'y a aucun résultat. Aucun résultat. Donc ils sont bien tels qu'ils sont. Donc, et tu conclus après, c'est la rébellion. Bien-aimé, je suis le premier à être très triste de ce qui se passe. Je me dis, mais Dieu, j'ai quelques raisons pour lesquelles je sais que Dieu, il nous refuse beaucoup de choses. Mais malgré ça, ça fait quand même mal que de vivre une époque où on a l'impression que le mal prend le dessus sur le bien. Voilà, même dans les églises, voilà, ça fait très mal. On a quand même, comme Paul dit, une dignité en Christ, c'est-à-dire la dignité de voir Christ élevé. Voilà, on veut que cela soit marqué. Vous savez, même quand Jésus était persécuté, on l'accusait, mais il y avait quand même la dignité de voir un aveugle né, quoi, qui voit. Vous allez tout dire, c'est un escroc, tout ce que vous voulez, mais ce garçon la voit. Voilà. Il y avait quand même une compensation. Même quand les pauvres étaient persécutés, il y avait des compensations, il y avait des prisons qui se cassaient, quoi. Des paralytiques qui marchaient. Et nous, nous sommes privés de tout ça. Ah Seigneur, jusqu'à quand? Si nous sommes si mauvais que ça, change-nous alors. Mais continuons à mendier, continuons à crier, n'entrons pas dans la rébellion. Imitons les gens du psaume 44. Malgré tout, ils disent, notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Voilà. Mais nous ne comptons que sur toi. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Voilà le reste du temps, nous allons passer à prier pour que Dieu nous visite à nouveau. Ça fait mal ce que nous vivons aujourd'hui. Oh Seigneur. Regarde l'état du christianisme aujourd'hui. La confusion qui règne. L'égoïsme parmi les chrétiens, l'attachement aux choses du monde, aux choses matérielles. L'ordre de priorité a changé parmi les chrétiens. D'abord leurs affaires, ensuite te servir. Nous te demandons pardon, Seigneur. Mais Seigneur, nous sommes abattus, nous voudrions bien vivre des choses du genre Zachée qui décide de vendre, de donner la moitié de ses biens aux pauvres et le reste de restituer aux gens qu'il a volé. Un homme très riche comme ça qui se dépouille pour l'évangile, on aimerait tant vivre de telles choses, Seigneur. Voir des aveugles nés comme ça, voir. Oh Seigneur, voir des transgenres se convertir, des homosexuels se convertir. Voir des jeunes de 18 ans, de 17 ans prophétiser et amener les gens au salut. Seigneur, aie pitié de nous. À cause de ta bonté, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Papa, nous crions à toi, Seigneur. Notre âme est abattue. Lève-toi pour nous secourir, Papa. Lève-toi pour nous secourir. Seigneur, où sont les guérisons d'autrefois, Seigneur? Où sont les guérisons d'autrefois? Oh, Seigneur. Où sont les prières d'autrefois? Seigneur, où sont les consécrations d'autrefois, Seigneur? Notre âme est abattue. Parce que, Seigneur, quand on regarde CNews, BFM TV, il n'y a pas une seule fois un vrai serviteur qui passe pour dire clairement la vérité. Seigneur, même toi, on t'a amené auprès de Pilate, tu as dit la vérité. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes comme des orphelins. C'est comme si tu n'es pas là, Seigneur. Mais nous n'avons pas un autre endroit où aller. C'est toi notre Père. Et nous nous tournons vers toi. Nous disons comme l'apôtre Pierre, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons pas trouvé ça quelque part. Seigneur, si ce sont notre, nos conceptions qui sont mauvaises, change-nous. Si ce sont nos péchés, convainc-nous de péché. Convainc-nous d'égoïsme. Convainc-nous de légèreté. Nous nous repentons de tout cela, Seigneur. Nous voulons du 100% avec toi. Comme les gens de Psaume 42 le disent, notre âme soupire après toi, Seigneur. Oh Seigneur. Mon âme te désire chaque jour et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur est après ton nom. Mon âme te désire chaque jour. Et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur est après ton nom. Seigneur, aujourd'hui, quand les païens nous regardent, ils ne voient que des hommes améliorés. Seigneur, nous voulons qu'ils voient des lumières. Des lumières. Seigneur. Qu'ils voient des lumières. Seigneur, nous sommes dans la souffrance, Seigneur. Nous sommes dans la souffrance. Nous voulons, Seigneur, que malgré leur refus de la vérité, ils voient en nous des gens qui viennent du ciel, Seigneur. Oh Seigneur, parle-nous, parle à chacun, Seigneur. Comme tu avais parlé au jeune homme riche qui se croyait bon, tu lui as dit, vends tous tes biens et suis-moi. Seigneur, tout ce que nous n'avons pas encore vendu pour te suivre, parle-nous afin que nous le fassions. Parle-nous, Seigneur. Mais nous ne voulons pas continuer ainsi, Seigneur. Nous ne voulons pas continuer ainsi. Nous voulons que les choses changent. Mais nous ne pouvons que nous tourner vers toi. Où irions-nous, Seigneur? Regarde-nous comme des mendiants qui venons près de toi mendier ta grâce, ta bonté, ta puissance. Mais Seigneur, notre mendicité n'est pas fortuite ni inventée. Seigneur, dans notre mendicité, nous pouvons quand même revendiquer l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Nous te le disons en face, Père. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, sachant ce que ton Fils a fait pour nous. Nous te le disons clairement. Ton Fils s'est miniaturisé en homme pour que nous ayons le bénéfice de tout ce dont il s'est privé, Seigneur. Alors c'est où? Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu, ô Dieu, tu nous aides à poursuivre, à te chercher, à poursuivre notre recherche de toi. Aide-nous dans cette recherche jusqu'à ce qu'on te trouve pour notre génération. Que tu sois également le Dieu de notre génération, pour que la génération à venir parle de ce que tu as fait avec nous. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous savons que tu vas faire parce que tu es bon et que Jésus, ton Fils, a payé de sa vie pour cela. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen.